Valve, c'est quoi? Valve, c'était le new employee handbook.
Ouais.
Yeah. Moi, avant d'enclencher la discussion, je voulais juste que on se mette dans l'état d'esprit, ok? Que c'est un handbook pour un nouvel employé. C'est pas un post, c'est pas un livre sur how to be righteous in the organization. C'est un handbook.
C'est encore plus génial.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là parce que je pense que ça le sort davantage de la valeur. Est-ce que Valve l'applique au jour le jour? J'ai aucune idée.
C'est public, ça? Comment tu as eu ça?
C'est Denning, le gars qui écrit Radical Management, qui fait référence à un de ses posts sur Forbes. Et puis qu'il en parle. Puis moi, le lien, le déclencheur de tout ça, c'est François Perron. Qui m'en a parlé cette semaine.
OK.
C'est moi, je lisais là, puis chaque phrase, là, j'aurais aimé l'écrire moi-même.
Oh, oui, j'ai entendu son commentaire.
C'est hallucinant. Ouais. C'est, ils ont compris. Pas quelque chose. C'est une entreprise de jeu, hein?
Oui, c'est eux qui ont fait Half-Life.
OK.
Mais eux ont besoin de créativité. Ils ont besoin que ça marche. Ça. Ils ont besoin du cerveau du monde, puis ils ont catché. Que tu as la meilleure créativité si tu laisses les gens autonomes de faire ce qu'ils font. Toute l'entreprise est basée là-dessus. C'est ça que j'ai compris dans lisant les 15 premières pages. Écoute, puis j'avais la barre qui coulait ou presque. Puis tu sais, je sens que les 37 pages, j'avais les dévorées ce soir.
Moi, des fois, en lisant ça, j'ai comme le goût de dire à mes clients, si vous voulez savoir où je veux aller, okay, où c'est quoi mon ultime. Puis, si jamais vous vous posez la question, lisez ça. Ça va vous donner une idée de où on pourrait peut-être aller. Peut-être qu'on ne s'en va pas jusque-là. Peut-être que c'est un processus de 20 ans. Peut-être que ça n'y va jamais. Mais si vous voulez savoir où moi je me positionne, et puis je vais aller où vous êtes comme coach, oui, où que je voudrais vous amener, voilà, c'est ça. Quand je dis continuellement que du overtime, du surtemps, c'est pas bon. OK? Si vous faites du surtemps, c'est pas une question d'engagement, c'est une question plutôt de mauvaise organisation de son travail, ou de priorisation de son travail, ou de collaboration avec d'autres personnes. Si quelqu'un fait du surtemps, c'est un problème, et puis qu'on doit l'adresser, puis on doit trouver des façons de le corriger.
Oui.
Voilà. Puis ça le dit clairement dans un handbook du nouvel employé. De Valve, j'ai trouvé ça génial comme situation. J'ai posté une image sur Twitter plutôt ce matin. Écoute, si tu veux changer ton poste de place, ton poste de travail, c'est simple. Débranche un ordi, roule ta table où tu vas aller, rebranche un ordi et remets-toi à travailler. Et non pas de remplir le document P82-6_8.
Oui, parce que un programmeur, c'est pas assez compétent pour déplacer son bureau, puis ça pourrait faire des accidents, puis ça pourrait scratcher des
mains. Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs grosses organisations, ça en amène non. Il y a évidemment les dieux de l'aménagement, et puis ça devient très difficile de co-localiser une équipe. Évidemment, il y a du sarcasme solide dans la description, ça va de soi. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de passer un message. Je disais, if you have to do something, do it. It is your responsibility. Puis ils mettent beaucoup d'emphase sur la façon d'embaucher les gens. Parce que la porte d'entrée, elle est critique dans ce sens-là.
Oui.
Parce que la personne qui dit « Oh, c'est beaucoup de responsabilité », en effet, oui, c'est beaucoup de responsabilité. C'est pas de dire « Non, faites-vous en pas, tu vas être aidé par l'équipe. » Teamwork is a team, is an individual skill. Voilà, c'est une grosse responsabilité individuelle de pouvoir mettre de l'avant toutes les idées qu'on pourrait avoir, finalement, là, sans avoir le luxe de blâmer d'autres personnes s'il y a un échec.
Ça va ensemble, autonomie et responsabilité, là, c'est pas le choix.
Fait que, encore un gros merci à François Perron pour m'avoir envoyé ce document-là. À un autre niveau, ça me donne espoir.
Que ça peut marcher?
Que ça peut
marcher. Ça
peut arriver. Oui, c'est une compagnie de jeu, gang de whatever, je sais pas, tu sais, hockey d'accord ou non, mais ça, j'y crois pas. Là. Je pense que ça peut arriver n'importe où.
Non, mais je pense que c'est du monde qu'il faut que soit à l'aise dans un environnement comme ça. C'est pas vrai que tu peux engager n'importe qui puis dire on va le convertir à ça. Ouais. Je pense que si tu fais pas attention dans ton processus d'embauche puis ils disent que c'est la chose la plus importante que les gens auront à faire dans leur job, c'est d'embaucher.
Mm-hmm.
Parce que c'est super important d'embaucher les bonnes personnes. Si tu engages du monde qui sont pas bien là-dedans, à un moment donné, la tendance va renverser puis il va y avoir des pressions à aller dans une autre direction. Je pense que c'est comme n'importe où ailleurs.
Ouais.
Fait que moi, ça, c'est ça. Moi, c'est le genre d'environnement dans lequel je suis à l'aise et je le sais. C'est le genre d'environnement que je recherche.
Ouais.
Puis que de savoir que ça fonctionne en quelque part, c'est waouh, merveilleux.
Yep. Total?
J'ai lu ce livre-là, puis je l'ai lu quand même rapidement pour être sûr de faire le tour d'à peu près toutes les pages. Un peu comme toi, Isabelle, je bavais à peu près à chaque page, mais il y avait une question récurrente qui me revenait, qui disait, comment tu fais pour que ça marche? Comment tu fais pour que ça produise quelque chose? J'ai eu, dans le passé, l'opportunité de vivre une expérience que je considère extrêmement similaire à celle, à ce qui est proposé là, dans le livre, là. Dans une organisation, puis j'avais le sentiment, je lisais ce livre-là, j'avais le sentiment de revivre la même expérience. Par contre, il y avait quelque chose qui me préoccupait à ce moment-là, puis qui me préoccupe aujourd'hui encore. C'est exactement la manière dont j'aimerais que les organisations fonctionnent. Sauf que la question à laquelle je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui, c'est OK, et avec tout ça, on a une capacité de produire, de réaliser, d'inventer, de se réinventer incroyable. Comment je canalise?
Comment on fait pour ne pas se pitcher dans plein de directions?
Voilà, parce que c'est...
La culture, le Schneider, comment dire, la cultivation.
Oui, voilà.
Le cultivation culture.
Oui.
Oui, en effet. Que
de ne pas tomber
là-dedans. Les gens ne sont pas focus, les gens sont des papiers partout, il n'y a rien qui se termine.
Voilà, il n'y a rien qui se... Tu sais, le sentiment, moi j'ai énormément de difficultés avec l'absence de sentiment d'accomplissement. Dans une réalité comme celle-là, faire peut devenir une finalité. Pas accomplir, mais faire. Juste le fait de faire des choses différentes, ça peut devenir la finalité ultime.
Mais en mode itératif incrémental, c'est un peu ça. Tu fais pendant X nombre de semaines, puis tu releases. Fait que c'est juste
faire, release. Oui, mais tu réalises quelque chose. Ouais. Concrètement, il y a quelque chose que tu peux toucher, puis dire « cool, that has value ».
Mm-hmm.
Okay.
Mais je pourrais aussi, pendant un sprint, partir dans plein de directions différentes, tester plein d'affaires, puis livrer pas grand-chose, puis juste me satisfaire dans développer un sentiment d'accomplissement dans le fait que j'ai essayé, j'ai touché à plein de choses.
Okay, mais si tu fais plein d'affaires pour atteindre un but,
oui, mais c'est ça. Je pense que c'est ça la difficulté de ce type d'environnement-là. Oui.
C'est pas incompatible?
Non, je ne dis pas que c'est incompatible. C'est une difficulté. Ouais, c'est un des défis potentiels de ce type de culture-là.
Oui.
C'est de créer de la valeur, mais de créer des éléments, des choses concrètes. Je ne m'exprime pas bien, c'est pas le bon terme que je vais utiliser, mais c'est ça. Cultivation culture, là, c'est le danger, je pense. C'est de se satisfaire dans le faire et non pas dans le résultat. C'est d'être heureux de marcher sur le chemin en se foutant de la destination. Moi, je suis là-dedans, moi, dans ma vie. Mais en même temps, ce qui me permet d'avancer sur le chemin, c'est d'avoir une certaine destination, mais de ne pas m'attacher à la destination, de ne pas avoir juste que si ça ne marche pas, que j'ai à faire. Mm-hmm. C'est pas ça. Mais pendant que j'ai une destination en tête, j'avance, puis là, je grandis. Mais le but, ultimement, c'est, je pense, d'avoir un sentiment d'accomplissement parce qu'on a contribué tout ensemble à créer quelque chose qui a de la valeur. Pour nous et pour les gens autour de nous.
D'où l'importance des objectifs puis de quelque chose pour canaliser. Il y a quelque chose qu'il faut qu'ils canalisent ton objectif.
Oui, voilà.
T'sais, pour que le monde ne puisse pas aller dans plein de directions, il faut qu'il puisse se dire « Oh, attends, là, je ne suis plus sur l'objectif. Il faut que j'en revienne. »
Mais
c'est pas incompatible. Je pense que les deux peuvent fonctionner. Puis c'est pour ça que les équipes Scrum fonctionnent. Parce qu'il y a le product owner qui va leur dire « OK, voici l'objectif, voici aussi où qu'on s'en va. » Ils sont responsables de dire comment, mais t'sais, ils savent où ils s'en vont aussi. Oui.
Puis ce que tu viens de dire, là, je rajouterais juste une phrase. Un product owner qui a une vision. Un product owner qui a une vision va rallier intuitivement. Il ne forcera pas les gens à adhérer. Il y a une vision, puis les gens adhèrent ou non. Mais si tu as des gens qui adhèrent à une vision, automatiquement, il y a ce focus, cet alignement des efforts-là, puis de la créativité des gens, puis de leur potentiel qui s'aligne tout à coup instantanément.
C'est le gros fléau aujourd'hui, c'est-à-dire que on pitch des projets à des groupes ou à des individus lorsque les gens devaient se relier autour d'un projet.
Voilà, on leur tombe ça sur leur bureau, leur dire « What do you think of? » Qu'est-ce qui arriverait si on faisait quelque chose comme ça?
La puissance que les gens vont choisir d'être dans cette entreprise-là, voilà. Ils vont choisir d'être dans... S'ils choisent d'être sur un projet, c'est parce qu'ils y croient, parce
qu'il y a une vision qui les interpelle, qui les amène ailleurs.
Beaucoup plus puissant. Oui. Parce que non seulement ils sont autonomes, ils sont responsables de leur choix et tout ça, mais en plus, ils croient en l'objectif, fait qu'ils ont l'intention d'arriver jusqu'au bout, puis en équipe.
Voilà.
Ça, c'est les ingrédients du succès.
Je pense que oui.
De tenir cet alignement-là aussi.
Oui. Puis de nourrir cette vision-là, puis d'ajuster les objectifs qui viennent concrétiser cette vision-là, parce que tu as des gens créatifs qui viennent nourrir cette vision-là, qui viennent la remettre en question, puis qui la challenge, puis qui en font quelque chose c'est de plus grand encore. C'est ça, d'après moi, qui fait que ça marche, ce modèle-là. Mais à la base, ça te prend des gens créatifs et la vision. OK? Et une vision claire de où les gens veulent aller. Je pense que s'il manque un des deux éléments, ben on tombe dans des environnements qui sont beaucoup plus traditionnels.
Je reviens à l'embauche.
Oui.
L'important, plus qu'important, de choisir les bonnes personnes pour être dans cet environnement.
Puis mettre l'accent dans le livre c'est sur le T-shape.
Oui, c'est sûrement le volet le plus difficile d'embauche. Parce que trouver des gens qui ont l'esprit d'entrepreneur, on peut se partir en entreprise que de se joindre à l'organisation.
Voilà.
Donc, ça doit être un défi solide pour Val de trouver des gens. Malgré ça, par contre, au niveau du développement de jeux, ça, par contre, se partir en affaires, je présume que c'est plus difficile, je ne sais pas. Donc, tu as plus tendance à te joindre à une organisation, je ne sais pas.
Ils sont où?
L'autre aspect où tout le monde est d'accord que c'est bon, mais très peu de gens le vivent ou l'appliquent au jour le jour, the right to screw up. Le droit à l'erreur. Oui, c'est le droit à l'erreur. Mais bien des endroits que quand tu fais une erreur ou que tu n'entends parler dans ton évaluation
annuelle.
Ou dans des commentaires ou dans des... inaction sur comment transformer l'erreur en quelque chose de bien, en doublé. Fait que, eux, évidemment, élaborent sur ce point-là de façon très, très explicite, très claire.
Oui.
Puis, regarde encore une fois. Wow!
Oui, wow!
Fantastique.
Celle-là, je l'avais noté, Learn from Mistakes.
Ouais.
C'est un des éléments clés, je pense, de la fondation de cette organisation-là, c'est d'être capable d'identifier. Donc, quand on regarde Five Dysfunctions of a Team, je pense que cette organisation-là a atteint un certain niveau de maturité en termes d'équipe. En fait, si on regarde l'organisation comme une équipe, c'est qu'ils se font suffisamment confiance pour accepter de dire « j'ai fait une erreur, puis now how do I learn out of it? » On a atteint ce niveau de maturité-là, c'est essentiel. Si la confiance n'est pas là au premier niveau, les gens ont une réaction naturelle de se cacher puis de dire « non, c'était pas ma faute, c'est parce que... » C'est moins difficile, c'est moins facile à ce moment-là d'apprendre. Mais un élément bien clé aussi que j'ai trouvé super sharp là-dedans, c'est que si vous voulez élaborer une idée, si vous voulez vous challenger, si vous voulez apprendre, parlez-en. Everywhere. Aux toilettes, à côté de la machine à café. Talk is not gossiping. Okay?
Yeah.
Talk is not gossip.
Okay? Oh, c'est pas du commérage.
Non, ça c'est pas...
Ça me fait des...
Voilà. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fortement interpellé. Moi, je comprends les choses, je suis capable d'apprivoiser des réalités différentes en parlant. J'ai besoin d'échanger, de communiquer, d'interpeller des gens, de me faire challenger. C'est comme ça que j'intègre des nouvelles réalités dans ma vie. Puis potentiellement, ça peut être perçu comme étant du gossiping, du commérage. Mais pour moi, c'est un élément fondamental de ma capacité d'apprentissage. Fait que je pense que de valoriser ça dans une organisation-là aussi, au lieu d'avoir, tu sais, t'en parleras au prochain meeting, tu sais, de pouvoir en parler à machine à café quand on s'en va dans le métro ensemble, ou quand ça a un potentiel énorme. Même si à l'occasion, ça ressemble à du commérage, ce qui est important, je pense, en arrière de tout ça, c'est le mindset. Je suis en train de bitcher. Si je suis en train de bitcher pour le plaisir de bitcher, même ça, je te dirais, dans certains cas, ça peut être positif. En autant qu'on le reconnaît. Regarde, là, je vais bitcher. Donne-moi les deux prochaines minutes, je vais bitcher. J'ai besoin de ventiler quelque chose. Après ça, mon cerveau va être plus clair pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus constructif.
C'est le passage qui
voilà.
Est important. C'est quand on ne fait pas le passage que ça devient.
Voilà. Là, si tu t'enfermes dans le commérage puis dans le pitching, ben effectivement, généralement, ça ne t'amène pas très loin.
Ouais.
Mais « the talk everywhere about everything », ça, ça a été une phrase clé que j'ai trouvée dans ce livre-là. J'ai trouvé ça vraiment cher.
Ouais. T-shape model.
Oui, T-shape, ça m'a interpellé beaucoup. C'est ça que j'ai noté aussi, T-shape.
Time to get the valve one. I loved that book. I read chapter two. I mean, chapter, it was like three pages, right? But the thing, I think every employee, regardless of where you work, should have to read the sections about how do I decide which things to work on. Someone told me not to work on X, and what do I do?
Mm-hmm.
And, you know, and the thing that I also really liked in that chapter was we constantly test our own decisions.
Yeah.
The idea, the theme that permeated the book was about you make your own decisions. You know, you have the freedom, you have the agency to decide who you're going to work with, on what you're going to work on. But with that freedom comes the responsibility of testing your decisions so that you're not just doing whatever seems like a good idea at the time. How do you know it's a good idea? Challenge it. Think about it. You know, question what you're doing.
Yeah.
Do what you want, but do it responsibly. And I thought that was such a critical message.
Yeah.
I mean, after reading that book, it's like, yeah, I want to work at Valve too. But that's such a key message, no matter what you're doing, no matter what kind of organization you're working in, to question why are you doing what you're doing and how do you know you're doing the right thing?
And how do you know you're doing the right thing is based on the context. I mean, in one context, what I'm doing is wrong. In the other context, it's good. And I think that brings me back to the vision. Okay, about when you ask that question about is what I'm going to do right now is the right or the bad thing, about you're talking about which context, why do you want to do that? Then if we know why you want to do that, then what do you want to know to do? Then you can probably decide if it's good or wrong. If you don't know what you're trying to achieve, if you don't know where you're going, any direction is good. If you have no... Si vous n'allez pas nulle part, si tu n'as pas de destination en tête, toutes les directions sont bonnes.
Mm-hmm.
À partir du moment où tu as une idée d'où ce que tu t'en vas et pourquoi tu y vas, ben là, tu peux commencer à challenger si les décisions que tu prends sont bonnes ou mauvaises en fonction de l'objectif que tu te fixes à ce moment-là. Sans vouloir figer l'objectif dans le temps. L'objectif, c'est quelque chose qui devrait être probablement flexible et qui devrait pouvoir être adapté à la situation présente.
Peut avoir la possibilité de le remettre en question régulièrement, pas tous les jours, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, des moments prédéfinis.
Oui.
Un petit peu Canada.
Oui, parce qu'en même temps, un moving target, ça peut être très démotivant pour
nous. Oui.
Voilà.
Bien des gens. Je t'appelle à relire une petite partie, là, où What is Val not good at?
Oui, à la fin, c'est sharp, ça. C'est vraiment sharp, ça.
Ben, le dernier, je... On n'est pas bon pour engager du monde qui ont du talent, mais qui préfèrent travailler dans une more traditional structure. Mais ils disent à la fin, on ne veut pas changer là-dessus.
Ouais, c'est ça. We're not good and it's okay.
Helping new people find their way. We're not good at that. It's interesting.
Yeah.
Interesting. Mentoring people. Not just helping new people figuring things out, but proactively helping people to grow in areas where they need help is something we're organizationally not great at.
Great.
Peer reviews help, but they can only go so far. Yeah. Disseminating information internally. Yeah, c'est très humble.
Oui, voilà. Identifier. Très réaliste, je pense qu'une vision très réaliste de... C'est des éléments clés là, dans une organisation, ce dont il parle. Il accepte de le mettre sur la table et de dire ça, on n'est pas bon à le faire. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver à partir de là. Là c'est... Pour moi...
La section à côté, c'est marqué « What happens when all this stuff doesn't work?
» OK. Comme,
wow, je n'ai pas lu par ailleurs non plus, mais juste le titre.
Mais c'est pas juste sur la page avant. C'est comme quand tout ce qui est dans le livre, là, ça arrive qu'au quotidien, c'est pas exactement tout ça.
Ben oui. OK.
Donc, mais on a confiance qu'on est capable de figure it out. On est confiant que même quand les problèmes persistent, on est capable de les régler.
Oui. Puis j'y crois fondamentalement à ça. Je dis souvent en formation, pourquoi la transparence est aussi importante? C'est parce qu'un problème qu'on ne voit pas n'existe pas. Donc, les possibilités d'agir sur ce problème-là sont quasi nulles. Essayer de mobiliser une organisation autour d'un problème qu'elle ne veut pas voir, cette organisation-là, c'est comme essayer d'empêcher des cerfs dans l'eau. Là. Je veux dire, tu vas travailler très fort à faire ça, puis ça va avoir des résultats très mitigés. La première élément clé, d'après moi, d'une intervention réussie, c'est de rendre visible l'enjeu. À partir du moment où on comprend ça, pourquoi on le fait, mais là, il y a plein d'énergie qui va se créer autour de ça. Rendre visible l'enjeu. Les entreprises qui n'ont pas le courage de rendre ces enjeux visibles-là, ben, n'arrivent pas généralement à atteindre l'objectif d'être plus scrum, d'être plus agile. Parce que c'est le nœud, c'est le cœur d'une transformation réussie, c'est d'être capable de voir, de regarder, d'identifier les enjeux potentiels puis d'agir à partir de là. Si tu ne veux pas regarder ça, ta capacité de changement est limitée d'autant ou de t'adapter.
Ça fait le tour.
Oui, merci beaucoup à tous. Ouais, c'était génial.